Chapitre 10. Le trésor des rois de France. Un rideau s'écarta.
« Bonjour, mon cher Beautrelet. Vous êtes un peu en retard. Le déjeuner était fixé à midi, mais enfin, à quelques minutes près. Qu'y a-t-il donc? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis donc si changé. »
Au cours de sa lutte contre Lupin, Beautrelet avait connu bien des surprises, et il s'attendait encore, à l'heure du dénouement, à passer par bien d'autres émotions. Mais le choc, cette fois, fut imprévu. Ce n'était pas de l'étonnement, mais de la stupeur, de l'épouvante. L'homme qu'il avait en face de lui, l'homme que toute la force brutale des événements l'obligeait à considérer comme Arsène Lupin, cet homme, c'était Valméras. Valméras, le propriétaire du château de l'Aiguille. Valméras, celui-là même auquel il avait demandé secours contre Arsène Lupin. Valméras, son compagnon d'expédition à Crozant. Valméras, le courageux ami qui avait rendu possible l'évasion de Raymonde en frappant ou en affectant de frapper dans l'ombre du vestibule un complice de Lupin.
Vous ? Vous ? C'est donc vous ?
Et pourquoi pas ? Pensiez-vous donc me connaître définitivement parce que vous m'aviez vu sous les traits d'un clergyman ou sous l'apparence de Monsieur Massiban ? Hélas, quand on a choisi la situation sociale que j'occupe, il faut bien se servir de ses petits talents de société. Si Lupin ne pouvait être à sa guise pasteur de l'Église réformée et membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, ce serait à désespérer d'être Lupin. Or, Lupin, le vrai Lupin, Beautrelet, le voici. Regarde de tous tes yeux, Beautrelet.
Mais alors, si c'est vous, alors, mademoiselle...
Eh oui, Beautrelet, tu l'as dit.
Il écarta de nouveau la tenture, fit un signe et annonça
« Madame Arsène Lupin. »
« Ah !» murmura le jeune homme malgré tout confondu. « Mademoiselle de Saint-Véran. »
« Non, non, non. Madame Arsène Lupin, ou plutôt, si vous préférez, Madame Louis Valméras, mon épouse en juste noces, selon les formes légales les plus rigoureuses. Et grâce à vous, mon cher Beautrelet. »
Il lui tendit la main.
Tous mes remerciements,
et de votre part, je l'espère, sans rancune. Chose bizarre, Beautrelet n'en éprouvait point de la rancune. Aucun sentiment d'humiliation, nulle amertume. Il subissait si fortement l'énorme supériorité de son adversaire qu'il ne rougissait pas d'avoir été vaincu par lui. Il serra la main qu'on lui offrait.
Madame est servie.
Un domestique avait déposé sur la table un plateau chargé de mets.
Vous nous excuserez, Beautrelet, mon chef est en congé et nous serons contraints de manger froid.
Beautrelet n'avait guère envie de manger. Il s'assit cependant, prodigieusement intéressé par l'attitude de Lupin. Que savait-il au juste? Se rendait-il compte du danger qu'il courait? Ignorait-il la présence de Ganimard et de ses hommes? Et Lupin continuait.
« Oui, et grâce à vous, mon cher ami. Certainement, Raymond et moi, nous nous sommes aimés le premier jour. »
« Parfaitement, mon petit. L'enlèvement de Raymond, sa captivité, des blagues, tout cela. Nous nous aimions. Mais elle, pas plus que moi, d'ailleurs, quand nous fûmes libres de nous aimer, nous n'avons pu admettre qu'il s'établit entre nous un de ces liens passagers qui sont à la merci du hasard. La situation était donc insoluble pour Lupin. Mais elle ne l'était pas si je redevenais le Louis Valméras que je n'ai pas cessé d'être depuis le jour de mon enfance. C'est alors que j'eus l'idée, puisque vous ne lâchiez pas prise et que vous aviez trouvé ce château de l'Aiguille, de profiter de votre obstination et de ma niaiserie.
Bon, qui ne s'y fût laissé prendre ?
De sorte que c'est sous mon couvert, avec mon appui, que vous avez pu réussir.
Parbleu,
comment aurait-on soupçonné Valméras d'être Lupin, puisque Valméras était l'ami de Beautrelet, et que Valméras venait d'arracher à Lupin celle que Lupin aimait.
Et ce fut charmant.
Oh, les jolis souvenirs. L'expédition à Crozon, les bouquets de fleurs trouvés, ma soi-disant lettre d'amour à Raymonde, et plus tard, les précautions que moi, Valméras, j'eus à prendre contre moi, Lupin, avant mon mariage. Et le soir de votre fameux banquet, quand vous défaillîtes entre mes bras, les jolis souvenirs.
Il y eut un silence. Beautrelet observa Raymonde. Elle écoutait Lupin sans mot dire, et elle le regardait avec des yeux où il y avait de l'amour, de la passion, et autre chose aussi, que le jeune homme n'aurait pu définir, une sorte de gêne inquiète, et comme une tristesse confuse. Mais Lupin tourna les yeux vers elle, et elle lui sourit tendrement. À travers la table, leurs mains se joignirent.
« Que dis-tu de ma petite installation, Beautrelet ?» De l'allure, n'est-ce pas?
Je ne prétends point que ce soit du dernier confortable.
Cependant, quelques-uns s'en sont contentés, et non des moindres. Regarde la liste de quelques personnes qui furent les propriétaires de l'aiguille et qui tinrent à l'honneur d'y laisser la marque de leur passage.
Sur les murs, les uns au-dessous des autres, ces mots étaient gravés. César, Charlemagne, Roll, Guillaume le Conquérant, Richard, roi d'Angleterre, Louis le XIe, François Ier, Henri IV, Louis XIV, Arsène Lupin.
Qui s'inscrira désormais?
Hélas, la liste est close. De César à Lupin, et puis c'est tout. Bientôt, ce sera la foule anonyme qui viendra visiter l'étrange citadelle. Et dire que sans Lupin, tout cela resterait à jamais inconnu des hommes. Ah, Beautrelet, le jour où j'ai mis le pied sur ce sol abandonné, quelle sensation d'orgueil! Retrouver le secret perdu, en devenir le maître, le seul maître, héritier d'un pareil héritage, après tant de rois, habiter l'aiguille!
Un geste de sa femme l'interrompit. Elle paraissait très agitée.
« du bruit en dessous de nous, vous entendez? Vous entendez ?»«
C'est le clapotement de l'eau. »«
Mais non, le bruit des vagues, je le connais, c'est autre chose. »«
Que voulez-vous que ce soit, ma chère amie? Je n'ai invité que Beautrelet à ce déjeuner. »
Et s'adressant au domestique,
« Charolais, tu as fermé les portes des escaliers derrière monsieur ?»
« Oui, j'ai mis les verrous. »
Lupin se leva.
« Allons, Raymonde, ne tremblez pas ainsi. Oh, mais vous êtes toute pâle. »
Il lui dit quelques mots à voix basse, ainsi qu'au domestique, souleva le rideau et les fit sortir tous deux. En bas, le bruit se précisait. C'était des coups sourds qui se répétaient à intervalles égaux. Beautrelet pensa...
Ganimard a perdu patience et il brise les portes.
Très calme, et comme si véritablement il n'eût pas entendu, Lupin reprit
« Par exemple, rudement endommagée l'aiguille quand j'ai réussi à la découvrir. On voyait bien que nul n'avait possédé le secret depuis un siècle, depuis Louis XVI et la Révolution. Le tunnel menaçait ruine, les escaliers s'effritaient, l'eau coulait à l'intérieur. Il m'a fallu étayer, consolider, reconstruire. »
Beautrelet ne put s'empêcher de dire
« À votre arrivée, était-ce vide ?»«
À peu près. Les rois n'ont pas dû utiliser l'aiguille, ainsi que je l'ai fait, comme entrepôt. »«
Comme refuge alors ?»«
Oui, sans doute. Au temps des invasions, au temps des guerres civiles également.
Mais sa véritable destination, ce fut d'être, comment dirais-je,
le coffre-fort des rois de France. Les coups redoublaient. Moins sourd maintenant. Ganimard avait dû briser la première porte et il s'attaquait à la seconde.
Un silence, puis d'autres coups, plus rapprochés encore. C'était la troisième porte. Il en restait deux. Par une des fenêtres, Beautrelet aperçut les barques qui cinglaient autour de l'aiguille, et non loin, flottant comme un gros poisson noir, le torpilleur. « Quel vacarme, on ne s'entend pas. Montons, veux-tu? Peut-être cela t'intéressera-t-il de visiter l'aiguille. » Ils passèrent à l'étage au-dessus, lequel était défendu, comme les autres, par une porte que Lupin referma derrière lui.
« Ma galerie de tableaux !»
Les murs étaient couverts de toiles, où Beautrelet lut aussitôt les signatures les plus illustres. Il y avait « La Vierge à l'Agnus Dei » de Raphaël, le portrait de Lucrezia Fédé d'André del Sarto, la Salomé de Titien, la Vierge et les Anges de Botticelli, des Tintoré, des Carpaccio, des Rembrandt, des Velasquez.
De belles copies,
approuva Beautrelet. Lupin le regarda d'un air stupéfait.
Quoi ? Des copies ? Es-tu fou ? Les copies sont à Madrid, mon cher, à Florence, à Venise, à Munich, à Amsterdam.
Alors ça ?
Les toiles originales, collectionnées avec patience dans tous les musées d'Europe, où je les ai remplacées honnêtement par d'excellentes copies.
Mais un jour ou l'autre, la fraude sera découverte.
Eh bien, l'on trouvera ma signature sur chacune des toiles, par derrière. Et l'on saura que c'est moi qui ai doté mon pays de chefs-d'œuvre originaux. Après tout, je n'ai fait que ce qu'a fait Napoléon en Italie.
Ah, tiens, Beautrelet, voici les 4 Rubens de Monsieur de Gesvres. Les coups ne discontinuaient pas au creux de l'aiguille.
Ce n'est plus tenable. Montons encore.
La salle des tapisseries. Elle n'était pas suspendue, mais roulée, ficelée, étiquetée, et mêlée d'ailleurs à des paquets d'étoffes anciennes que Lupin déplia. Brocart merveilleux, velours admirable, soie souple, au ton fané, chasuble, tissu d'or et d'argent. Ils montèrent encore, et Beautrelet vit la salle des horloges et des pendules. La salle des livres. Oh, les magnifiques reliures et les volumes précieux introuvables, uniques exemplaires dérobés aux grandes bibliothèques. La salle des dentelles, la salle des bibelots. Et chaque fois, le cercle de la salle diminuait. Et chaque fois, maintenant, le bruit des coups s'éloignait. Ganimard perdait du terrain.
La dernière, la salle du trésor.
Celle-ci était toute différente. Ronde aussi, mais très haute, de forme conique. Elle occupait le sommet de l'édifice, et sa base devait se trouver à 15 ou 20 mètres de la pointe extrême de l'aiguille.